Bestueten Frontalien gehen seit dem 1. Januar ernst besteuert. Sie muss noch Revenuen, die am Ausland generiert gehen, deklarieren. Der Lützebäuer Finanzminister sagt, die neuen Bestimmungen geben mehr Steueregalität zwischen Frontalien und Residenzschäfen. Aber wie gerecht ist das neue System? Und wie kommt denn bei den Frontalien un? Darüber schwätzt mal mit unseren zwei Inviten morgen, der Vincent Jacquet vom LCGB und den Jacques de la Colette vom OGBL. Moderation Pierre Heiland.
Vincent Jacquet, Jacques de la Colette, bonjour.
Bonjour.
Vous vous engagez pour les intérêts des frontaliers. Est-ce que vous êtes vous-même des frontaliers, Jacques de la Colette?
Oui, je suis frontalier au Luxembourg depuis plus de 30 ans maintenant. Donc j'habite en Belgique et j'ai toujours travaillé au Grand-Duché de Luxembourg toute ma vie.
Ouais. Et monsieur Jacquet?
Oui, je suis également frontalier depuis 1999 et je viens de la région d'Arlon. Mmh.
Donc avant de parler des nouvelles règles en matière d'impôts, je voudrais aborder le sujet des frontaliers qui travaillent ici d'une manière plus générale. Il y en a plus de 180 000 qui viennent travailler au Luxembourg chaque jour. Mais est-ce que le Luxembourg reste encore un marché de travail aussi attractif pour les frontaliers? On parle beaucoup des problèmes de mobilité, des embouteillages. Beaucoup de frontaliers passent des heures par jour dans leur voiture pour faire le trajet. Pensez-vous que l'attractivité du Luxembourg comme lieu de travail pour les frontaliers a changé et que certains, ou même beaucoup d'entre eux, commencent peut-être à mettre en question ces avantages? Vincent Jacquet.
Mais je pense que le Luxembourg reste toujours attractif. Il y a toujours un dynamisme très important dans la création d'emplois. Mais il est vrai que durant ces dernières années, on a toute une série de dossiers ou de problèmes qui se sont accentués, notamment la mobilité, puisque d'année en année, il est vrai que le temps de parcours et donc le temps qu'on perd pour se rendre sur le lieu de travail ne fait qu'augmenter. Alors il y a évidemment beaucoup d'initiatives qui sont prises côté luxembourgeois, notamment par le ministre Bausch. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une politique transfrontalière coordonnée avec les pays voisins. Et c'est là où bien souvent ça coince pour diverses raisons, parce que les interlocuteurs ne sont pas toujours très disponibles à trouver des solutions pour les frontaliers, ou parce que parfois on a affaire à des niveaux de pouvoir qui sont fort différents. Une région, un État, donc ça peut en tout cas poser des soucis dans la concrétisation d'une vraie politique transfrontalière qui soit beaucoup plus attractive et beaucoup plus coordonnée.
Jacques de la Colette, la plupart des frontaliers prennent leur voiture pour venir au Luxembourg. Est-ce que l'offre des transports publics, train ou bus, n'est pas suffisante?
Elle n'est pas suffisante justement dans leur pays de résidence généralement. Le Luxembourg, comme M. Jacquet vient de le dire, a fait beaucoup d'efforts et fait beaucoup d'efforts en matière de transport en commun. Et l'objectif d'arriver à 20% d'utilisateurs, à mon avis, on n'en est pas loin maintenant. Le problème, c'est justement à partir du pays de résidence où il y a des lacunes. Et malheureusement, comme mon collègue vient de le dire, les décideurs politiques ou les décideurs, en tout cas au niveau des transports en commun dans les pays de la grande région, n'ont pas toujours le même, en tout cas le même schéma de vision que le Luxembourg.
Donc pour vous, c'est les pays, c'est la France, la Belgique ou même l'Allemagne où il y a le problème, et non pas au Luxembourg.
Oui, c'est d'abord en amont qu'il faudrait aller chercher le problème. Donc là où les frontaliers partent, ça ne sert à rien de faire des parkings de dissuasion ou des park and ride, etc., à l'entrée du Grand-Duché de Luxembourg, parce que ça bouchonne déjà dans les pays limitrophes, donc pour la Belgique ou la France ou l'Allemagne. Il y a déjà des problèmes déjà dès le départ.
Est-ce que le tram et le funiculaire au Paffendal améliorent la situation pour les frontaliers qui viennent de Belgique?
Mais ça va en tout cas améliorer la situation et ça va réduire le temps de parcours pour tous les gens qui viennent du Nord. D'ici un an ou deux, on aura aussi d'autres trains, notamment des trains qui viennent de France et de Belgique, d'Arlon ou on espère encore aussi de la ligne de Virton, qui pourront monter à la gare du Paffendal, parce que tous les gens qui travaillent sur le plateau du Kirchberg verront leur temps de parcours réduit d'au moins 20 minutes.
Le ministre de l'économie luxembourgeois, Étienne Schneider, a proposé le télétravail comme une solution à ces problèmes de mobilité. On a parlé aussi de projets pour installer des centres de bureaux, des centres de télétravail près de la frontière, pour justement éviter de devoir faire le trajet jusqu'au centre. Est-ce que c'est une bonne solution, Vincent Jacquet?
Mais je pense que c'est une solution intéressante. Le souci au niveau du télétravail, c'est qu'il y a des règles dont on ne peut pas aussi facilement que ça se défaire. Il y a notamment les règlements européens au niveau de la sécurité sociale qui prévoient que dès le moment où 25% de son temps de travail est effectué dans le pays de résidence, on devient un assuré du pays de résidence. Et puis il y a les conventions fiscales qui prévoient également que si on preste une série de jours, il y a des tolérances évidemment, mais dès le moment où on dépasse ces tolérances et on preste des jours dans le pays de résidence, on devient fiscalement imposable dans le pays de résidence. Donc il y a toute une série de contraintes fiscales, sociales, qui font que le télétravail est extrêmement difficilement praticable en l'état actuel des choses pour les frontaliers. Donc si des centres de télétravail se font, à notre avis, ce serait plutôt du côté luxembourgeois, aux frontières évidemment, mais du côté luxembourgeois, où on n'aurait pas ce risque de se voir imposer dans un autre pays que le Luxembourg, ou de perdre sa sécurité sociale luxembourgeoise. En tout cas, en l'état actuel des conventions et des règlements européens.
On en vient au sujet de la fiscalité. La réforme fiscale au Luxembourg a entraîné des changements importants pour les frontaliers. Avant tout pour les frontaliers mariés, dont un des conjoints travaille au Luxembourg. Ces changements sont entrés en vigueur le 1er janvier. Et avant d'aller dans les détails, Jacques Delacollette, est-ce que la plupart des couples frontaliers payent maintenant plus d'impôts ?
Certains vont payer plus d'impôts, d'autres, la situation ne changera pas. C'est vraiment au cas par cas qu'il faut analyser la situation. Dans l'ensemble, certainement qu'il y aura un impact négatif pour les frontaliers. Ça, c'est indéniable. Mais certains, en tout cas, ne verront pas de changement dans leur fiscalité.
Vous parlez d'un impact négatif. Le gouvernement luxembourgeois a plutôt jugé qu'il y avait une égalité, un avantage inéquitable pour les frontaliers mariés vis-à-vis des couples mariés qui habitent ici au Luxembourg. Alors, qu'est-ce qui a changé maintenant dans ce contexte, Vincent Jacquet? Parce que maintenant, les couples frontaliers ne vont plus automatiquement pouvoir bénéficier de la classe d'impôt numéro 2, donc couple marié. Quel est le changement principal concernant les couples mariés maintenant ?
Mais le changement se situe principalement à deux niveaux. D'abord au niveau de l'octroi de la classe d'impôt. Donc un frontalier, un couple non résident marié, sera d'office rangé en classe d'impôt 1, c'est-à-dire comme un célibataire, quand il est non résident. Contrairement au résident qui, lui, est rangé en classe 2. Qui est son régime de droit commun. Donc ça, c'est le principal changement. Pour accéder à la classe 2, il y a une possibilité, c'est celle de demander le taux global. Et donc le taux global est finalement un taux d'imposition qui va être fixé par l'administration, tenant compte des revenus étrangers du couple non résident. Et donc toutes les personnes, tous les couples mariés non résidents ont dû remplir, depuis octobre jusqu'à la fin de l'année, un document en déclarant les revenus étrangers du ménage pour pouvoir justement recevoir ce taux qui est fixé et qui va servir à une imposition tout au long de l'année 2018. Mmh. Avec à charge pour ces couples de faire en fin d'année une déclaration d'impôt pour régulariser l'impôt réellement dû, puisque ce taux qui a été fixé en début d'année ne sert finalement que de provision, et il y a vérification via la déclaration d'impôt en fin d'année si ce taux était correct ou non.
Donc les revenus des couples mariés frontaliers sont maintenant pris en compte pour calculer le taux d'imposition. Mais est-ce que donc il y avait quand même un avantage avant la réforme pour les couples frontaliers, puisqu'ils ne devaient pas prendre en compte les revenus qu'ils avaient dans leur pays de résidence? Donc cet avantage est maintenant rectifié. Est-ce qu'on peut parler qu'il y avait un avantage avant, une inégalité envers les résidents?
Il y avait un avantage dans la mesure où, quand un seul des deux conjoints travaillait au Luxembourg, on octroyait la classe 2 sans tenir compte du revenu étranger. Et la réforme a corrigé cela. Mais par contre, la réforme a créé d'autres situations qui ne sont pas non plus équitables. Notamment le fait que pour accéder à ce taux global et à cette imposition en classe 2, on a des conditions de seuil. Et donc, il faut que le contribuable frontalier réalise au moins 90% de son revenu imposable au Luxembourg. Si le frontalier ne réalise pas 90% de son revenu imposable, donc tout revenu confondu, pas que les revenus professionnels, donc l'ensemble des revenus, eh bien, il sera rangé en classe 1. Et ça, c'est un souci, parce qu'il y a toute une série de personnes qui ne parviendront pas à atteindre les conditions de seuil. Je pense notamment aux retraités à carrière mixte, à des personnes qui auraient des revenus locatifs ou à des personnes qui ont une activité fractionnée sur plusieurs pays. Ce sont les trois cas principalement problématiques. Mmh. Alors pour corriger ça, le gouvernement a introduit un deuxième seuil qui est un seuil de 13 000 euros. Si le contribuable a un revenu étranger inférieur à 13 000 euros, on reconnaît qu'il remplit les conditions des 90%. Mais ce seuil ne règle pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'un résident marié a d'office la classe 2 sans condition de seuil, un non-résident marié a d'office la classe 1, et il y a toujours une condition de seuil à remplir pour être imposé en classe 2. Mmh. Et c'est là où le traitement est différent entre résident et non-résident. Et la deuxième chose qui pose problème, c'est que même entre non-résidents, les conditions de seuil sont différentes. Tous les non-résidents sont soumis à cette condition des 90% du revenu personnel réalisé au Luxembourg. Les frontaliers belges, c'est 50% des revenus professionnels, cette fois-ci, du ménage à réaliser au Luxembourg.
Oui, c'est parce qu'il y a des accords de double imposition avec la Belgique.
Tout à fait, c'est lié à la convention fiscale. Et donc là, on a un traitement différent, selon qu'on soit résident ou non-résident, et on a également un traitement différent entre les non-résidents. Donc l'égalité qui était annoncée dès le départ par le ministre des Finances, au final, n'est pas garantie, parce qu'il y a justement cette différence de traitement.
Jacques de la Colette de l'OGBL, est-ce que vous voyez aussi cela comme une nouvelle inégalité qui a été créée pour résoudre une vieille inégalité ?
Dès le départ, on a dénoncé justement le fait qu'on allait créer une nouvelle inégalité, même en faisant une correction. Donc ce qui se passe, comme on l'a dit, c'est qu'un non-résident marié a la classe d'imposition 1 par défaut, tandis qu'un résident marié a la classe d'imposition 2 par défaut. Ça, c'est une inégalité.
Mais l'OGBL a quand même accepté l'accord qui a été négocié, donc même les changements dans la réforme.
Alors, au niveau dès 2016, dès que le projet de loi a été sorti, nous avons contesté ce projet de loi. Nous avons entamé des discussions avec le gouvernement, notamment avec le ministre des Finances, et pour essayer d'améliorer la situation pour les frontaliers. On est arrivé à plusieurs améliorations, notamment le seuil des 13 000 euros là, de revenus à l'étranger, les 50 jours pour le travail splitté, donc quand les gens doivent aller faire des missions à l'étranger, etc. Donc on a amélioré sensiblement la situation pour pouvoir accéder à la classe d'imposition 2, mais le fond du problème, la classe 2 par défaut, on ne l'a pas eu. Et ça, c'est sûr que ça reste toujours, malgré tout, une demande, une revendication de l'OGBL.
Le LCGB avait quitté pendant l'été les négociations. Est-ce qu'il y a une position plus critique du LCGB que celui du OGBL, ou est-ce que vous êtes sur la même ligne ?
Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une dernière réunion le 3 juillet, en fait, avec les représentants du ministère des Finances. Et c'est une dernière réunion qui a fait finalement état de la dernière proposition du gouvernement par rapport à la modification du texte qui avait déjà été voté en décembre 2017. Et donc nous avons, suite à cette réunion, reconfirmé notre position écrite, donc par rapport à tous ces problèmes, et quant au fait qu'on n'était pas d'accord avec cette politique de traiter de façon différente des situations qui sont pourtant comparables entre résidents et non-résidents. Et donc cette notification et ce courrier qu'on a fait au gouvernement a fait en sorte qu'on n'a plus été invité, tout simplement, parce qu'on avait une vue qui était différente de celle du gouvernement. Et donc ça n'empêche que nous, on reste sur notre refus. Pour nous, il y a un traitement qui n'est pas équitable. C'est un traitement qui va créer des problèmes et des surcharges d'impôts pour certains contribuables, ceux qui n'accéderont pas au seuil notamment, qui se verront imposés en classe 1 alors qu'ils auraient eu un intérêt à avoir le taux. Et donc par rapport à tout ça, je pense qu'il faut être cohérent. Si on défend pendant 12 mois ou 15 mois une politique qui revendique l'égalité de traitement entre résidents et non-résidents, je pense qu'il faut aussi être cohérent et dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui a été corrigé au niveau de la loi.
Mmh. Jacques de la Colette.
Oui, donc la position du LCGB, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont quitté là, je vais dire, ils ont voulu plutôt vouloir la politique de la chaise vide. Nous autres, on a voulu continuer à discuter avec les ministres parce qu'on voulait justement que ce qui avait été mis sur la table soit quand même acquis, donc notamment les facilités pour pouvoir accéder à la classe d'imposition 2. Et je dois quand même souligner que depuis plus de 30 ans, il y a toujours une inégalité pour pouvoir avoir accès à la classe 2, parce qu'il fallait 50% des revenus du ménage au Luxembourg pour avoir la classe 2. Et ça date depuis des dizaines d'années. Donc moi, je m'étonne un petit peu maintenant de la position du LCGB qui dit tout à coup, on n'est pas d'accord, que pendant des années, ils n'ont jamais rien dit. Est-ce que c'était parce que le gouvernement n'était pas de la même couleur auparavant ? Ça, je n'en sais rien.
Ok, juste brièvement à la fin encore. En pratique maintenant, comment se présentent les nouvelles dispositions? Est-ce que les frontaliers concernés ont vraiment des problèmes à s'y retrouver parce que c'est compliqué? Et bon, on a mis une calculatrice une calculatrice sur le site du guichet.lu pour donc pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Mais comment, quel est le feedback des frontaliers concernés concernant les nouvelles règles et aussi les conditions qu'ils doivent remplir maintenant, Monsieur Jacquet?
Sur les conditions, je pense que c'est assez complexe pour les gens. Donc tout le monde n'est pas évidemment formé à pouvoir remplir ce simulateur, à pouvoir déterminer son taux d'imposition, à rentrer les montants corrects. Donc là, il y a quand même une certaine incompréhension des frontaliers par rapport à ce nouveau système. D'autant que les courriers qui étaient adressés par le gouvernement et qui proposaient des taux n'étaient pas toujours faits correctement, dans le sens où le taux n'était pas calculé de façon optimale, tenant compte de la situation des personnes. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprise, d'abord par rapport aux personnes qui n'ont pas tout à fait compris ce qui se passait au 1er janvier, il y en a encore qui n'ont pas tout à fait compris cette histoire de taux, et par rapport au taux d'imposition via une classe 1 qui devrait être corrigé pour toutes ces personnes qui auraient loupé le délai. Donc ça c'est un élément important, mais je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit, parce que pour nous ce qui est important et ce qui reste le fil conducteur, c'est que des gens qui sont dans une situation égale et qui sont la même, doivent être traités de façon égale, et notamment face à l'impôt. Et face à l'impôt, pour nous, avec le système actuel, il n'y a pas une égalité qui est assurée. Donc ça, c'est le gros souci. Et pourquoi on a également refusé cette réforme? C'est parce que cette réforme fait suite à toute une série d'autres choses et d'autres réformes qui pénalisent les frontaliers. Parce que chaque réforme qu'on subit depuis pas mal d'années, à chaque fois des petites mesures qui concernent les frontaliers. La réforme des allocations familiales a ces petites mesures qui concernent les frontaliers. Quand j'impose un lien de filiation, par exemple, aux non-résidents, je prive des familles recomposées d'un droit aux allocations qu'ils avaient. Je prive les enfants placés d'un droit aux allocations. Quand j'impose une continuation de l'affiliation pour toucher les allocations familiales et une perte du droit en cas d'interruption, ça concerne évidemment uniquement les frontaliers, de nouveau, qui perdent l'ancien système et qui repassent dans le nouveau système. On a eu le dossier des aides financières. On a le dossier de l'assurance dépendance, qui est un dossier dont il faudra quand même bien à un moment donné parler, parce que c'est un dossier qui est éminemment problématique. Et donc toutes ces mesures qui sont incluses dans les réformes que le gouvernement prend mettent finalement la situation des frontaliers à mal et créent aussi des problèmes au niveau de la cohésion sociale et sont sans arrêt des dossiers qui doivent être corrigés via des recours, des procédures devant les cours européennes et devant les juridictions compétentes. Donc ça, ce n'est pas bon et c'est aussi un élément qu'on voulait dénoncer en disant cette réforme fiscale n'est pas juste, elle n'est pas équitable, c'est une chose. Deuxième élément, elle fait suite à toute une série d'autres lois et d'autres réformes qui ne le sont pas non plus. Et donc ce qu'on veut, c'est qu'il y ait aussi une vision d'ensemble et quand même une reprise en compte et en considération de la situation globale des travailleurs frontaliers au Luxembourg.
Une dernière question à Jacques de la Colette encore. Est-ce que la position du OGBL reflète plutôt un désir de ne pas affecter les bonnes relations entre le GBL et le gouvernement?
Ça n'a rien à voir. On a régulièrement, et encore maintenant, dans beaucoup de dossiers, des dossiers qu'on met devant les juridictions, justement, pour contester les décisions ou les mises en pratique de certaines décisions du gouvernement. Ici, en matière de fiscalité, on avait un projet de loi, on a une loi qui a été votée en décembre 2016. On s'est mis autour de la table avec le LCGB et le ministre des Finances pour essayer d'améliorer la situation. À un moment donné, le LCGB a décidé de quitter la table. Nous autres, on est restés pour justement pouvoir garder ce qui avait été amélioré. Et si on n'était pas resté à la table, c'était même pas des négociations, mais des discussions. À ce moment-là, on risquait de perdre tout ce qu'on avait acquis depuis les discussions qu'on avait eues au mois de février, ça c'est certain.
Vincent Jacquet et Jacques de la Colette, merci pour l'entretien ce matin.
An soweit den Invité vum Dach oder d'Invitéen vum Dach, den Pierre Heiland huet mat den zwee Gewerkschaftler Vincent Jacquet vum LCGB an dem Jacques de la Colette vum OGBL geschwätzt. Den Sturm Eleanor hanaléis nach weider Noéien am Verkehr. Police meldet, dass op der Penetrant Süd am Tunnel Albert Busser tischt dem Rampant Glug an der Gären Fussgänger NRW aus den Deichter ugedoen, also passen ob den. Zu Kärsching aus den 31. Strü Nikola Meyers gesperrt, wenn es den Ersatz von der Pompien, der das Stroß von der Biff ob Niederkue, die Platz soll am besten evitieren, an der Bäm an der Stroß von Römlinger Richtung an Kehler Porto, auch die Plätze evitieren. Um 211 zwischen Kärsching und Häving steht viel Wasser an der Straße und dann zwingt zwischen Mänisch an der Dostfabrik an den 306 Großbus Fichten bleiben bis auf weiteres zu, wenn es Beam, die umgefallen sind. Dann noch nach der Teil den 152b zwischen Schengen und Konz an Frankreich ausgesperrt, wenn es Heischwasser.